Bonjour. Alors, on va commencer la rencontre avec Ginette Lorrain. Bonjour, Ginette.
Bonjour.
J'ai envie de dire que Ginette Lorrain a eu plusieurs vies, puis c'est pas fini. Il y a eu celle d'avant au Vertigo, au sein du groupe Nouvelle Ère, qui est en fait une des compagnies fondatrices de la danse au Québec. On est à ce moment-là à la fin des années 70. Tu danses avec, pour ceux qui sont alors des jeunes chorégraphes et des jeunes danseurs, tu danses pour eux, avec eux, Paul-André Fortier, Édouard Locke, Daniel Léveillé. Et on dit que tu te démarquais beaucoup par ta grande agilité, ta fougue spontanée, ta polyvalence aussi. Puis en 84, elle fonde sa compagnie sur le vertige, au vertigo, entre l'impulsion et la chute, dans leur sens aussi physique que poétique. Elle est déjà fascinée par les multiples pouvoirs du corps. En tout, tu vas créer quoi, jusqu'ici, une quarantaine de pièces presque, dont peut-être une dizaine là avant, à titre indépendant, avant la création de Vertigo, puis presque une trentaine depuis, à peu près. On pense au coloré Chagall, au vivifiant Crash Landing, à la Chambre Blanche qui a été recréée là, il y a 2 ans, 2008, à Déluge en 94, La vie qui bat sur la musique de Drumming de Steve Reich en 99, Luna avec ses immenses lunettes ou loupes pour agrandir et se rapprocher du corps, Passaré en 2004, Études pour corps des poulies en 2007 et Onde de choc qui est présentée depuis hier et jusqu'à demain au Festival Transamérique. Une œuvre toujours lumineuse, hein, avec des petites parts d'ombre quand même. Je pense que c'est à l'image de ta conception un peu de l'être humain. J'allais dire gymnaste de formation. Paraît-il que ça a ponctué les débuts de la formation. Hein. Alors, Ginette Lorrain aime pousser les corps jusqu'à leur extrême limite physique et expressive. Dans des pièces de jeunesse comme Olé et Chevy Dream, se manifeste d'abord le plaisir infini de l'exubérance gestuelle. Puis surgit une certaine théâtralité avec Train d'enfer, La Chambre blanche, et une fascination pour les failles et les fêlures humaines. On pense à La Bête, en 97. Cette quête vers l'intérieur, le creux, le caché, elle en parlera de plus en plus comme d'un désir de se rapprocher le plus possible de l'être humain. Les loupes géantes de Luna, justement, magnifiaient le corps et la mécanique du mouvement. Avec Onde de choc, on dirait qu'elle veut y entrer, faire entendre cette intériorité. Mais l'intériorité restera toujours explorée comme un des pôles, hein, sans jamais abandonner l'autre, le lumineux, l'extraverti, l'explosion du geste dansé. Puis j'ai envie de dire qu'il y a comme une nouvelle vie qui a un peu commencé en 2005, quand la compagnie s'est installée dans son centre de création, à la Place des Arts, juste à côté. Parce que c'est à peu près à cette période-là, là, peut-être un petit peu avant, que commence les labos, une recherche aussi plus axée sur l'interdisciplinarité, où tu travailles avec des concepteurs sonores, concepteurs de lumière, dramaturges aussi. Tu as travaillé avec Wajdi Mouawad à un moment donné. Ça donnera lieu, entre autres, à l'installation. En fait, ce travail-là d'interdisciplinarité, ça donnera lieu à une installation qui a été présentée au Musée d'art contemporain, La résonance du double. Et à la réalisation de films aussi depuis 2002, hein, qui est pas mal présente. Évidemment, la compagnie a eu des prix, partie en tournée souvent. Il y a eu évidemment tournée au Canada, tournée aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon, je pense, dernièrement.
Au Japon, oui.
Mexique aussi. Mm-hmm. Mais j'aimerais ça d'abord qu'on parle d'Onde de choc, puisque c'est en spectacle en ce moment. C'est ça qui nous préoccupe, occupe, mm-hmm. fascine. Onde de choc explore vraiment toutes les résonances du corps et du geste, mais entre autres les résonances du cœur humain des danseurs, qui est comme mis sous écoute à l'aide de stéthoscopes qui sont en fait manipulés un peu par les interprètes. C'est un des aspects. Comment t'en es arrivé à utiliser cet accessoire-là?
En fait, au tout début, l'idée d'onde de choc, c'est venu me rapprocher du corps, essayer de l'ausculter d'une autre façon et que ça génère peut-être une thématique qui amène le mouvement. et qui amène aussi une façon de voir, une autre façon de voir le corps en mouvement. Et j'ai décidé de travailler sur l'aspect sonore. L'aspect sonore qui serait généré par le corps en mouvement. Donc, en premier lieu, est venue cette espèce de plateforme de résonance, une boîte de résonance à l'arrière de la scène, sur laquelle les danseurs bougent et qui... avec laquelle on traite le son, et il y a une infinité de possibilités qui s'offrent à nous avec les nouvelles technologies. Donc, j'ai travaillé un peu comme ça. Pour moi, cette boîte de résonance, c'est un peu comme un organe vivant. Puis ça, c'est une autre façon d'imager l'intérieur du corps humain, la cage thoracique, tout ça. Mais on l'explore aussi en allant écouter, sonder le corps. Et pour moi, le son le plus intéressant, c'est le battement cardiaque. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de jouer avec le rythme aussi, de la pulsation cardiaque, et de la faire entendre au public par ces fameux stéthoscopes dans lesquels on entre un micro sans fil. Et on peut montrer jusqu'à quel point, justement, les danseurs, à la fin d'un plateau de danse très dynamique, le cœur peut battre très vite. Et c'était le point d'envoi pour nous de cette pièce-là, avec toutes ces envolées très, très dynamiques.
Le cœur, c'est le cœur battant, c'est quand même l'organe de vie par excellence, mais ça évoque aussi d'autres choses pour vous. C'est un peu tout ça que vous avez exploré, que tu as exploré, je te tutoie depuis,
oui.
Je me mets à te
voyer,
que tu as exploré tout au long de la pièce.
Oui. Quand est sortie l'idée, d'explorer le son du cœur, bien sûr, le cœur est apparu comme quelque chose de très évocateur. Donc, ça a été aussi la facette de la pièce qu'on a le plus explorée en improvisation. En médecine chinoise, le cœur, c'est l'organe, parce que chaque organe est relié à une émotion. Et c'est l'organe qui est relié à l'émotion de la joie, du trop-plein, de l'excitation. Donc, on a joué beaucoup avec ces thèmes-là. Bon, bien sûr, le cœur, c'est la vie, mais il y a aussi l'opposé. Le sang, la perte de sang, c'est aussi la tristesse.
Le stress. Peut-être pas dans la perte de sang, mais on sent aussi que
oui, l'excitation, le trop-plein, puis parfois ça a un côté positif, parfois négatif quand c'est mal géré, disons. Alors oui, on joue avec ces atmosphères et ces états d'être.
Est-ce qu'il y a aussi eu des motivations que je dirais plus d'ordre physiologique, dans le sens où je sais que à partir de Luna, si je me trompe pas, vous avez Tu t'es beaucoup intéressée aux questions scientifiques, explorer le cosmos un peu, en plus de l'infiniment petit, l'infiniment grand. Mm-hmm. Et j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de ça encore. Et donc, j'imagine que la mécanique quand même du corps a dû aussi piquer ta curiosité. Ça a dû piquer ta curiosité.
Oui, c'est certain. J'ai rencontré un cardiologue. J'ai lu quelques écrits sur les nouvelles recherches en cardiologie pour voir si on pouvait aller s'inspirer de ça. Et c'est intéressant parce que souvent, l'aspect scientifique nous confirme finalement nos intuitions en tant qu'artiste. Et je trouve ça toujours intéressant de rencontrer des scientifiques parce que quand on est en recherche scientifique, on doit être très créatif aussi. Alors, c'est toujours fascinant de partir des discussions avec eux. Et ce qu'ils ont découvert récemment, c'est que le cœur est formé aussi de neurones comme les cellules du cerveau. Et apparemment, ces neurones du cœur communiquent avec les neurones du cerveau. Alors, quand... Avant, on parlait de l'intelligence du cœur.
C'est pas tout à fait faux.
C'est ça, il y avait une certaine réalité qu'on peut prouver maintenant scientifiquement.
Ça, c'était une façon d'entrer, donc, de retourner vers l'intérieur, d'aller vers le ressenti intérieur. Mais On the Choc, c'est aussi, j'ai l'impression, une des pièces où l'intensité physique est à son comble. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est vrai. Mais quand on parle du cœur, pour moi, ça va aussi avec ça. Ça va avec l'intensité, ça va avec la générosité aussi. Ça va avec cette machine qui pompe. Et c'est incroyable parce que quand on se met à calculer le nombre de battements que notre cœur va faire dans toute une vie, c'est incroyable. Fait que je voulais jouer avec cette espèce de
spectre.
Spectre tellement large, tellement intense.
Ça va même là, jusqu'à une certaine violence, de la douleur,
oui.
Ce qu'on voit moins dans
oui.
Dans les autres
joue,
pièces.
Pour moi, cette pièce-là est composée de plateaux qu'on appelle des plateaux d'épuisement, mais aussi d'images plus évocatrices. Où on joue avec peut-être la symbolique ou des images qui sont plus de l'ordre visuel, tout ça. Mais c'est vrai que les plateaux d'épuisement sont très intenses. Je pense que c'est aussi les choix musicaux, la lumière et l'espèce d'intensité, de puissance qui vient du son, qui viennent peut-être amplifier l'effet d'épuisement aussi.
En tout cas, dans cette pièce-là, on sent vraiment bien, justement, les deux pôles de cette intériorité-là puis de cet excès dans la décharge du mouvement. Mais le travail de l'intériorité, c'est pas si récent que ça, finalement. Ce travail-là, quand même, poussé de l'intériorité, est-ce qu'on pourrait dire que ça remonte jusqu'à quoi? En dedans? Ou,
c'est ça, exactement.
C'est là que ça...
C'est avec en dedans où j'ai voulu jeter un regard plus intime et plus...
qu'est-ce qui a changé, peut-être?
Ouais.
Ou comment, dans Onde de choc, ça s'exprime différemment que dans les pièces?
L'idée de... zoomer in, de me rapprocher un peu comme avec une lentille rapprochante, ça me fascine beaucoup depuis à peu près 10 ans. Et dans mon travail, à l'opposé, il y a toujours une multitude d'actions simultanées. C'est comme ça que je vois la vie, c'est comme ça que j'ai envie de montrer la danse aussi. J'aime que le spectateur ait le choix dans ses images et j'aime que son œil fasse « OK, je m'en vais là, je choisis. » Et il faut qu'il aille vite. C'est vrai qu'il y a une surcharge très souvent dans mon travail. Et en opposition avec ça, j'aime bien donner une autre perception du corps en mouvement, soit en l'agrandissant, soit en décomposant le mouvement, soit en donnant un son que normalement, qui accompagne, mais que normalement, on n'entend pas. J'aime bien donner l'envers du décor, là. Et je trouve que, justement, à cause de cette charge émotive qui est donnée dans le mouvement, c'est important de revenir aussi à cette intimité avec le danseur, où on est plus dans les états d'être que dans une danse du paraître.
J'ai envie aussi de revenir sur... je pense qu'un des aspects qui... définit beaucoup votre travail, c'est le travail des duos, en fait. Ça fait longtemps qu'on le dit. Mais encore une fois, dans Onde de choc, on dirait que c'est... t'as réussi encore à réinventer le duo, à retrouver des nouvelles façons de prendre les corps. Comment t'as fait?
Mais pour moi, le duo, c'est ce qu'il y a de plus vrai parce que on est en face de quelqu'un d'autre et comme je le crée, il n'y a pas de compte sur la musique. Les seuls repères, c'est le mouvement de l'autre. Et moi, ça me touche beaucoup, ça. Cette rencontre entre deux individus qui bougent souvent assez vite ensemble et qui ont des parties assez, où ils doivent se dépasser. Mais en plus, il faut qu'ils se dépassent en se syntonisant à une autre personne. Et c'est beaucoup comme ça qu'on le travaille. Et les deux doivent vraiment balancer leur énergie pour se trouver là-dedans. Et c'est un travail qui est très, très long, qui est très engageant aussi pour les danseurs.
J'imagine que les danseurs eux-mêmes ont dû beaucoup aussi participer à ce travail, cette évolution-là du duo, de la forme du duo.
Oui. Oui. Oui, beaucoup. Et dépendamment de la formation du danseur ou de sa façon de comprendre les choses ou de danser, ça va, il va falloir qu'il se remette au neutre pour pouvoir accepter l'autre dans sa bulle et pouvoir bouger avec l'autre et enlever un petit peu d'eau puis en remettre. Puis, donc, il y a vraiment un gros travail de partage.
Oui, c'est ça. Il y avait une complémentarité assez exceptionnelle. Et ouais. On sent aussi, des fois, ça va jusqu'à, évidemment, comme un rapport de duel où on a l'impression, des fois, de voir de la capoeira. En tout cas, je ne pense pas que ça soit une influence nécessairement directe, mais c'était très aussi dans le combat. C'était très athlétique aussi. Mm-hmm. Puis, ça faisait partie, évidemment, là, de la mécanique pour faire.
Ben c'est ça. C'est le but. C'était un prétexte aussi pour jouer avec l'épuisement. Et l'espèce de trop-plein, quand on est très heureux ou il y a quelque chose d'excessif en soi, on ne sait plus si c'est. On est, de quel côté on est. Est-ce qu'on est. On peut pleurer quand on est joyeux ou. Parfois, ça devient très violent à l'intérieur quand on est trop excité. Fait qu'on joue beaucoup avec cette ligne très, très fine entre quelque chose qui est très serein ou quelque chose qui est finalement très violent. Bon, l'idée, donc, de choc aussi, c'est quand on écoute le cœur, il y a quelque chose de très violent. C'est très grave. Ça fait même vibrer le plafond de l'usine C parce que c'est un son très, très bas et très grave. Et ça a été un choc un peu pour les danseurs les premières fois qu'on a travaillé avec le son du cœur. Et puis, après ça, au contraire, ça a été très apaisant. Mais il y a les premiers moments étaient assez choquants.
Est-ce qu'il y avait des différences entre les battements de femmes et d'hommes? Ou je ne sais
oui,
pas.
Mais étrangement...
On les perçoit moins un peu dans le spectacle parce que ça reste quand même une petite... toute petite part du spectacle, ça nous amène ailleurs.
Ouais. Étrangement, parmi les danseurs, le cœur qui est le plus grave, c'est le cœur d'une femme, parce qu'elle a un souffle au cœur. Alors, il y a des cœurs aussi qui se remettent très, très vite à une pulsation normale, là, qui est à peu près à 70 à la minute, alors qu'il y a des cœurs qui prennent beaucoup plus de temps à revenir à une pulsation. On joue beaucoup aussi avec ces espèces de courbes où le cœur bat très, très fort puis revient à quelque chose de plus normal.
On s'entend quand même, c'est tellement des athlètes qu'on a l'impression que leur cœur bat pas si vite pour toute l'énergie qu'ils viennent de déployer.
Oui, aussi, c'est vrai.
On va parler de la contribution musicale. On a beaucoup parlé du son. Mais pour la part plus musicale comme telle, vous avez fait appel à le compositeur Michael Nyman, qui a entre autres créé la musique la plupart des films de Peter Greenaway et du film La leçon de piano de Jane Campion. Pourquoi ce compositeur en particulier? C'est un fan de votre œuvre, je pense.
Ben oui, on s'est rencontrés à quelques reprises à Londres et j'ai déjà utilisé une de ses musiques il y a très longtemps pour une pièce qui s'appelait Full House. C'était la partie qu'on appelait le mariage. Et quand on l'a présenté à Londres, il est venu et il était revenu voir Luna et on s'était dit il faudrait bien travailler ensemble. Et bon, ça donnait jamais parce qu'il est très occupé, mais finalement, cette fois-ci, il a pu collaborer. Donc, il a créé 6 parties musicales pour le spectacle.
Avec des consignes ou est-ce qu'il y a quelque chose dans la qualité de sa musique, dans l'humeur de sa musique que tu recherchais particulièrement?
La façon dont on a fonctionné, c'est que on a choisi des instruments pour qu'il y ait une unité dans le spectacle. On est allé vers le piano et les instruments à cordes. On a choisi ça à cause des caisses de résonance de ces deux instruments-là. Puisque je travaillais avec une immense caisse de résonance, on s'est dit, bon, on va essayer de créer une parenté entre sa musique et la caisse. Et j'ai envoyé des DVD, des premiers extraits de danse, et lui a fait des propositions à partir de là. Lui ne fait que des musiques instrumentales, donc au début, il m'a fait des propositions sur synthétiseur, pour la fin, enregistré avec ses musiciens. J'ai utilisé deux de ses musiques pour les plateaux d'épuisement et je trouve que c'est vraiment une musique qui motive beaucoup l'espèce de frénésie dans le mouvement, de dynamisme. C'est, je pense que les danseurs, ils le sentent beaucoup comme ça, sa musique. Bon, il y a d'autres parties plus lyriques qu'on utilise pour des parties plus lentes. Pour moi, c'est important aussi d'avoir un contrepoint à cette musique qui est très lyrique, instrumentale, avec la musique électroacoustique. Je pense pas que j'aurais pu faire un spectacle juste avec cette musique-là. Encore là, ça vient balancer aussi avec l'esprit de la pièce qui explore peut-être deux dimensions de cette thématique.
Là, tu fais référence justement à la caisse de résonance.
Mais aussi la musique électroacoustique.
La musique électroacoustique qui est présente aussi. Parce que c'est ça, au niveau de la scénographie, il y a d'autres éléments. Là. Il y a cette plateforme dont on parle, là, qui est effectivement comme une caisse de résonance où les danseurs, en fait, à chaque fois qu'ils évoluent sur cette plateforme-là, ça déclenche des sons. Et les qualités sonores ne sont pas toujours les mêmes.
Non, ça change à chaque
fois. On a un peu l'impression de... Effectivement, là, à un moment donné, ça me rappelait un peu quand on met des bouchons dans ses oreilles puis qu'on entend toutes sortes de bruits intérieurs.
C'est ça, les craquements. Les os qui craquent, les souffles, les respirations.
Comment ça n'a pas dû être simple d'orchestrer justement ces différents aspects, morceaux musicaux ou sonores-là?
Oui, ça c'est beaucoup le compositeur de musique électroacoustique, Martin Messier, qui a marié tout ça. Donc, on s'est inspiré pour la musique électroacoustique des sons qui sont générés par le corps, puis ça a été sa palette de sons. À partir de ça, lui, il a créé ses musiques. Il a dû faire le pont aussi entre sa musique et celle de Nyman. Alors parfois, bon, la musique électroacoustique suit une musique de Nyman sur la même note pour aller vers d'autres sonorités, d'autres... Donc, c'était pas évident au départ, je dirais. Heureusement que Martin Messier était à Montréal avec nous et qu'il a suivi tout le processus.
Il y a vraiment comme un va-et-vient entre ces différentes qualités sonores, ou en tout cas textures sonores-là aussi. Là.
Oui.
Est-ce que il y a aussi dans la scénographie, en fait, une espèce de
boîte
bande
lumineuse
une boîte lumineuse qui en fond de scène, en fait, au-dessus de la plateforme, puis qui pulse un peu au rythme des corps aussi. Ça, c'est un élément visuel qui... C'est important pour vous d'aller amplifier peut-être ce...
Oui, je voulais parfois répondre à l'aspect sonore par le visuel. Au début, j'ai essayé de l'explorer avec la vidéo. Et pour ce que je voulais faire, il y a des programmes qui existent, mais qui sont encore très coûteux, donc j'avais pas les moyens. Alors, on a décidé de l'explorer avec des nouvelles techniques en éclairage. Parfois, ces lumières sont vraiment syntonisées au son, par exemple, qui vient de la boîte sonore, parfois au battement cardiaque. Il y a toute une séquence musicale aussi où on pulse cette boîte-là et ça devient une lumière en mouvance pour moi. Cette pièce-là, si je sors des mots pour décrire un peu la pièce, c'est, je dirais, vibration, scintillement et radiation. Et c'est avec la lumière que je vais chercher ces qualités-là, ces mouvements-là. Dans la danse aussi, bien sûr, mais la lumière accompagne ces moments-là.
Avec tout ce thème autour des pulsations du cœur... on pense, on dirait, je ne sais pas s'il y a un lien à faire avec la vie qui bat.
Oui, sûrement. Oui. D'ailleurs, on a remonté la vie qui bat récemment pour le faire au Japon avec un ensemble de là-bas. Et c'est sans doute dans ce travail-là que m'est venu le désir de travailler encore sur la pulsation. Et c'est vraiment très puissant de travailler avec des musiciens qui nous accompagnent sur scène. J'avais envie de faire revivre ça aux danseurs et aux spectateurs, mais d'une autre façon. Puis c'est vrai que, bon, dans le drumming, il y a beaucoup d'instruments de percussion. Et c'est vraiment très, très puissant comme, comme expérience de le vivre par la danse, mais aussi par toute la, la résonance musicale.
C'est comme si les percussions étaient rentrées dans le corps.
Oui, c'est ça, c'est vrai.
Donc, il y a d'autres pièces qui tournent à la Vicuba, tu l'as dit, d'autres pièces de Vertigo. Il y a aussi La Chambre blanche, qui est une création de 92, mais qui a été recréée en 2008. Pourquoi cette pièce-là? Pourquoi décider de recréer cette pièce-là en particulier?
Bien, je pense que c'est une pièce assez marquante dans le, l'évolution de la compagnie. C'est une pièce qui a demandé au tout début là, un très long processus de recherche. Et au moment où on commençait la recherche, est arrivé l'événement de la Polytechnique où un homme tuait 14 femmes. Et en 2008 est arrivé, ou 2007, là, je me souviens pas, la tuerie aussi à Dawson. Et il y avait eu l'idée de faire un film avec La Chambre blanche en 92. Finalement, on n'a pas trouvé le financement pour le faire. Mais ça m'était toujours resté en tête. Et le projet de film est venu sur la table encore. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire le film, pourquoi ne pas remonter la pièce aussi pour la scène? Je pense que c'est encore d'actualité. Ceci dit, il fallait que je change des éléments qui avaient peut-être moins bien vieilli, comme
quoi?
Comme la musique, certaines séquences chorégraphiques. Pour moi, c'était important de rester fidèle à l'intention de la pièce.
Qui était? On pourrait peut-être élaborer.
Ben, c'était de jouer entre la ligne très fine entre le contrôle et la perte de contrôle, entre l'équilibre et le déséquilibre. Et
ce qui a évoqué même une certaine folie, là, presque.
Oui, 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 oui. Donc, il y a un décor assez imposant dans la Chambre blanche. Hein. C'est tout fermé, puis ça nous fait penser un peu à une salle d'hôpital psychiatrique. Donc, on joue un peu avec ces éléments-là. C'est peut-être une des pièces les plus théâtrales que j'ai faites.
Puis, finalement, il y a eu un film.
Finalement, il y a eu un film. C'était une expérience vraiment captivante.
Et c'est un peu, en fait, ça fait depuis 2002 que vous retravaillez beaucoup l'image, Mais là, c'est une deuxième signature, une deuxième réalisation,
oui.
Ginette Lorrain.
Oui, oui.
Et là, c'est un moyen métrage, alors que la première réalisation, c'était un court métrage. Donc, c'est quand même un engagement. Parce que le fait de travailler depuis 2002, on va voir un extrait bientôt de La Chambre blanche, là. Je vous mets en haleine. Est-ce que depuis 2002, donc, tu avais travaillé avec Soutéou?
Oana Soutéou. Oui.
Et c'était un peu pour préparer le terrain à ta propre réalisation? Tes propres réalisations?
Je pense que c'est un médium qui m'intéresse beaucoup en tant que chorégraphe, bien sûr. Je pense pas devenir réalisateur puis faire que ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup pour jouer encore avec le mouvement. Quand je l'ai fait avec Oana, c'est parce que j'avais des idées, mais que j'avais pas les outils pour pouvoir faire les films. Bon, avec l'expérience, à force d'en faire, j'en ai fait aussi un peu à Toronto avec certains autres réalisateurs. Puis, il faut dire que maintenant, le médium est beaucoup plus accessible. Avec Final Cut Pro, on peut faire
ça dans son
montage.
Salon.
Oui, c'est ça. Donc, voilà.
Bon, enfin, on peut peut-être regarder l'extrait.
Parfait.
Qu'est-ce que ça t'apporte de plus ou différent que le travail scénique, le travail de l'image comme ça, de film?
Ça permet de faire des choses qu'on peut pas faire sur scène. Par exemple, dans un des courts-métrages que j'ai fait avant ça, j'ai fait quelque chose avec un homme de 81 ans puis un petit garçon de 8 ans. Bon, c'est plutôt difficile de faire des spectacles avec des personnes assez âgées ou d'aller en tournée, tout ça. Alors, j'ai pu explorer d'autres avenues avec d'autres corps, des non-danseurs, tout ça. Dans le cas de La Chambre blanche, j'ai pu amener la caméra dans l'espace. Donc, encore là, donner un autre point de vue, une autre perception du corps en mouvement et choisir pour l'œil du spectateur. C'est ça la grosse différence avec la caméra. On choisit où vous allez regarder, alors que quand vous regardez un spectacle, ben vous avez toujours le même cadre. Et là, on peut cadrer différemment, faire des gros plans. Jouer avec le son aussi, parce que dans ce cas-là, on a une musique, on a les voix des danseurs, mais on a d'autres couches sonores qui est difficile d'amener en spectacle.
Est-ce que, parce qu'il n'y en a pas assez pour dire ça, mais quand même, les films sont souvent rattachés à une pièce, une œuvre scénique, mais pas toujours. Copia, on peut dire que Copia 2, là, que tu as réalisé, en fait. Mm-hmm. On pourrait en parler un peu comme d'un dérivé, peut-être, du thème du double que tu as beaucoup exploré, mais il reste que c'est pas un film de danse comme
pas
tel.
Pas du tout. Ouais.
Est-ce que c'est une direction que tu veux prendre, d'aller, en fait, que ce devienne des films qui soient pas nécessairement toujours attachés à une pièce?
Oui, j'aimerais bien... un jour, faire un film, puis faire la chorégraphie ou la mise en situation, la mise en scène pour le film, plutôt que de partir de l'opposé. C'est peut-être un piège quand on réalise un film, partir de son œuvre chorégraphique, parce qu'on n'a peut-être pas toujours le détachement qu'il faut pour amener le propos ailleurs. Et je serais curieuse de voir comment... je pourrais amener une pièce par le médium du cinéma sans l'avoir fait pour la scène.
Et donc, comme Onde de choc ne donnera pas nécessairement lieu à une version
filmée? On fait toujours un film dans le but de faire la promotionnelle, mais donc on va en faire, puis je m'amuse toujours beaucoup, je l'ai fait moi-même et on prend une semaine, puis tout ça, donc je garde la main avec ça, je dirais, mais c'est sûr que ça se fait pas dans des conditions comme un vrai film, où là ça prend des budgets plus grands, avec une équipe professionnelle, des caméras professionnelles, tout ça, mais j'aimerais beaucoup, c'est sûr que c'est un long processus un film, il faut l'écrire longtemps à l'avance pour demander le soutien financier. Et juste ce processus-là peut prendre jusqu'à ce qu'on ait l'argent, quelque chose comme 2, 3, 4 ans. Et ensuite, il faut réaliser le film. Donc, et ensuite faire le montage et tout ça. La post-production aussi, c'est un long processus. Et ben voilà, ça prend beaucoup de courage pour s'embarquer dans une aventure comme ça, quand à côté, on a aussi toute l'aventure de la diffusion et de la direction artistique d'une compagnie de danse.
Et ça se situe où, le film, par rapport à ton travail de chorégraphe?
Ben, je dirais, il y a le film, il y a aussi les installations. J'ai des idées d'installation, mais on trouve pas toujours preneur, on trouve pas... La chance que j'ai eue de présenter quelque chose au Musée d'art contemporain avec 6 installations, c'était une chance inouïe, c'était vraiment... Je me suis amusée beaucoup à faire ça, j'ai plongé à fond dans un thème qui m'est très cher, celui du double. Ça me fascine beaucoup de voir comment des corps qui sont similaires ou très différents vont habiter le même mouvement ou des mouvements différents, tout ça. L'idée d'unisson, comment on arrive à se syntoniser, comme je parlais tantôt dans les duos, ça me fascine beaucoup. Puis je trouve qu'il y a moyen d'explorer ça d'une autre façon que par le spectacle chorégraphique. Mais bon, là encore, c'est aussi trouver le temps, les moyens, les diffuseurs ou producteurs qui vont être intéressés à cet aspect-là de mon travail.
Sinon, le travail d'exploration peut aussi se faire dans des contextes un peu comme les labos
les
l'ont
labos.
Fait.
Oui.
Et je pense que le centre de création d'Au Vertigo à la Place des Arts permet aussi ça. Et c'est plus juste... en fait, la création est rattachée à toutes sortes de petits moments de recherche. Mm-hmm. Et où est-ce qu'on ouvre aussi la porte aux autres, aux danseurs, aux interprètes, à ce qu'eux veulent explorer aussi?
Oui. En fait, il y a deux aspects. On offre des résidences. Ça, c'est carrément pour des créateurs qui peuvent avoir 2 semaines, par exemple, quand la compagnie n'est pas à Montréal. On offre des petits séjours chez nous. Ils peuvent peaufiner une pièce, explorer, utiliser l'éclairage, le son. Mais on a aussi la formule des laboratoires où j'invite parfois soit un autre créateur d'une autre discipline à venir faire une recherche particulière avec nous. Je l'ai fait avec des architectes parce que, bon, c'est le travail sur l'espace et en chorégraphie, c'est ça aussi. Hein, c'est intéressant de voir les points communs. Je l'ai fait avec un metteur en scène. En fait, deux metteurs en scène, Wajdi Mouawad et Stéphanie Jasmin. Merci. Je l'ai fait aussi, j'en ai fait un sur le son, j'en ai fait un avec sur le mariage entre l'image, l'animation et la danse, parce que c'est pas facile de mêler ces deux médiums, parce que souvent c'est l'image qui va prendre toute l'attention, et on a cherché là-dessus. Donc parfois ça aide à trouver des solutions pour une création. Parfois, c'est une recherche brute comme ça. Et ça permet aussi aux danseurs de se mettre dans un contexte de recherche, mais qui n'est pas nécessairement... où on ne cherche pas un but. On ne sait pas en partant quelles seront les réponses. Et puis à partir de là, peut-être que ça peut nous amener vers une création.
Puis la place laissée aussi aux interprètes. Je sais que dans ton parcours, il y a la pièce Angel, où justement, tu avais décidé de laisser, en fait, de saluer d'une certaine façon le travail de tes interprètes. Est-ce que c'est l'occasion, là aussi, de leur laisser une certaine un terrain de jeu aussi?
Oui, ça peut. Si un danseur me dit, ben, tu sais, j'aimerais faire une pièce, par exemple, ou j'aimerais faire une petite recherche là-dessus, on va essayer de l'appuyer autant qu'on peut. Ou il est arrivé que, par exemple, avec Wajdi Mouawad, c'est les danseurs qui ont manifesté le désir de travailler avec lui. On a fait aussi un travail avec un autre chorégraphe français qui s'appelle Christian Rizzo. Et certains danseurs avaient déjà vu son travail, puis ils avaient envie de travailler avec lui. Moi aussi, j'avais envie qu'ils viennent travailler avec mes danseurs.
Quelque chose de très différent
oui,
aussi, là,
c'est vrai.
Dans l'esprit, dans l'air. Ben, je vais peut-être ouvrir la période des questions, si jamais quelqu'un qui veut plonger.
Tout à l'heure, on a assisté à la rencontre avec Ivo Van Hove, qui disait qu'il travaillait toujours avec les mêmes acteurs pour des raisons X, Y, Z. Toi, tu as la chance d'avoir une des rares compagnies qui a des danseurs à domicile et qui sont là depuis longtemps avec toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la relation que tu entretiens avec tes danseurs, puis comment tu travailles avec eux?
Donc, c'est une relation pour certains danseurs de longue date. Pour moi, c'est très, très important. Pour moi, c'est important qu'eux s'engagent beaucoup dans un processus de recherche. Avec Onde de choc, je pense que c'est la pièce où on a le plus utilisé l'improvisation pour le sujet de l'évocation du cœur. Et par exemple, on avait des classes de Marie-Ève en Qigong. Bon, je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais c'est quelque chose où on arrive à se recentrer sur soi, beaucoup d'exercices avec nos organes, la respiration, tout ça. C'est très intérieur. Et tout de suite après, on avait une période de 2 heures d'improvisation. Et avant la classe de Qigong, j'avais déjà donné la thématique pour que justement on ne s'arrête pas entre les deux. Et ça a vraiment donné des résultats très forts, très ils se sont donnés à fond là-dedans. Ce qui est bien avec le fait d'avoir une équipe à temps plein et la même pour plusieurs pièces, c'est que il y a plus de barrières, ils s'abandonnent totalement au sujet. Et il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... donc, la pièce, elle est allée un peu... Bon, c'est moi qui ai proposé, mais elle est allée aussi où eux voulaient qu'elle aille. Parce que ils ont fait beaucoup de propositions. Ils ont été très généreux. D'ailleurs, le thème du cœur, pour moi, c'est aussi ça, c'est la générosité, c'est la vie, mais c'est aussi l'intensité, le feu. Donc, on a travaillé beaucoup autour de ces sujets-là. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je sais que vous venez de dire que des fois, vous avez utilisé le procédé d'improvisation pour la création du spectacle, mais est-ce que vous privilégiez souvent une méthode de travail pour construire un spectacle de danse?
Je dirais que la méthode de travail, premièrement, pour moi, toute la recherche avant d'entrer en studio est toujours très importante. Et c'est important que je mette un cadre. Et faut que ça soit très, très clair. Et pour ça, je fais appel à des concepteurs pour le décor, la lumière, la musique, l'éclairage, les costumes, je l'étudie, et le maquillage. Tous ces éléments-là sont très, très importants pour moi. Et les premières rencontres ont eu lieu au mois d'août l'été passé. J'ai rassemblé mon équipe. Et puis, on a cherché ensemble. On a discuté ensemble et tout. Et j'ai commencé le travail de répétition en novembre seulement avec les danseurs. Mais à ce moment-là, on savait vraiment où on voulait aller. On avait, dès le début, la boîte de résonance. L'élément de lumière est arrivé très tard, mais on savait comment on voulait explorer la lumière. Alors voilà. Pour moi, finalement, le procédé, c'est d'avoir, parce que tout est possible en danse, on part d'une feuille blanche. Alors c'est important que les balises soient établies. Pour moi, pour les danseurs aussi. Puis je pense que l'autre chose, c'est de pas avoir peur de faire plein de choses, puis après de rejeter les choses qu'on pense qui fonctionneront moins, mais pourquoi pas, tu sais? Souvent, on se disait, oh non, ça marchera pas. Oh. Mais il faut l'explorer. Il faut se donner la chance d'explorer.
Au niveau, ça m'intéresse, au niveau de la qualité gestuelle, ça émerge vraiment quand tu rentres en studio avec les danseurs, comme ça, où tu as déjà une idée du genre de dynamique que tu veux.
Oui, bien, la thématique m'amène souvent à une façon de bouger. Bon, là, je savais que je voulais travailler autour de quelque chose comme vibration, scintillement, irradiation, feu, rouge. Et je savais qu'on travaillerait avec des plateaux d'épuisement. Puis pour moi, le duo aussi était au centre, au cœur de cette pièce. Donc, à partir de tout ça, est née la gestuelle de façon un peu intuitive, je dirais.
Vous avez toujours eu comme une fascination, dans le fond, pour le mouvement du corps, mais c'est aussi juste le nom de votre compagnie, là, Au Vertigo. Mais est-ce qu'il y a vraiment... c'est parti d'où, cette fascination-là? Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu comme un déclic ou quelque chose? C'est vague.
Mais je pense que, dans mon cas, c'est génétique. Je suis un peu née avec ça, avec cette... J'ai toujours aimé bouger. J'ai fait un petit peu de gymnastique. J'étais jeune. Puis je pense que ça fait partie de moi. Donc, c'est ancré dans ma façon de voir la danse aussi. Mais ceci dit, j'aime bien aussi parfois balancer ça avec un regard qui est peut-être plus imagé ou plus tranquille ou plus... Mais c'est vrai qu'il y a comme quelque chose d'effervescent qui m'appelle aussi à travers le mouvement.
Puis vous disiez que toutes les émotions passaient vraiment par le corps. Ça a toujours été comme ça pour vous?
Bien, c'est parce que le corps, c'est mon outil de travail. Puis je trouve que c'est la machine la plus merveilleuse qui soit. On a J'ai pas fini de faire le tour du corps.
Non,
c'est vrai que ça me fascine. Ça me fascine le corps humain, le corps d'un danseur athlétique. C'est fascinant aussi d'avoir un être humain comme outil, parce que, je veux dire, c'est infini ce que tu peux faire. Puis mon spectateur, c'est un être humain aussi, donc il y a une communication qui est kinesthésique ou même qui passe par nos cellules, qui se transmettent d'un à l'autre. Fait que je trouve ça fascinant.
Est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle aussi, peut-être avec l'époque à laquelle tu as commencé à danser et l'espèce de d'ébullition, de sentiment de libération que tu vivais? Tu as dansé pour Françoise Sullivan aussi, puis je pense que ça a été quand même assez déterminant. Tu pourrais peut-être en parler
Oui. Bien, je pense qu'ici, au Québec, dans les années 80, on n'émergeait pas d'une école, d'une façon de voir la danse. Dans les années 70, il y avait le groupe, c'est-à-dire les États-Unis, New York avec Cunningham, Martha Graham, Limon, qui étaient des techniques. Donc, ils avaient créé leur compagnie, créé des spectacles, mais aussi créé une technique de danse. Et ça, ben, je pense que ça a créé des danseurs qui étaient très performants dans ce type de technique, mais qui étaient peut-être un peu pris dans cette façon de voir la danse. Ici, on a peut-être eu la chance justement d'avoir l'impression de pouvoir inventer quelque chose et pas être pris avec une technique. À l'époque de Nouvelle Ère, j'ai collaboré avec des grands artistes aussi, des peintres. Il n'y avait pas de scénographe dans les années 70. Il y avait des peintres ou des sculpteurs avec qui on travaillait. Et j'ai eu la chance de rencontrer Françoise Sullivan, qui était chorégraphe depuis les années 40, mais qui est une grande artiste en art visuel, qui fait de la peinture et tout ça, et qui m'a fait voir aussi l'art d'une autre façon, et fait voir peut-être des façons où on pouvait mélanger les médiums et avoir un propos de chorégraphe, mais à travers d'autres médiums.
Il y a d'autres questions?
Moi, c'est en deux pour un. Je me suis toujours posé la question, d'où vient... ce que vous créez, en fait. D'où vient votre inspiration? Comment... en fait, vous avez fait... Comment, en fait, un simple être humain peut inventer ou créer des choses ou avoir tant de créativité, tant de pouvoir de créer, que ce soit en danse ou n'importe quoi. Mais comment vous faites, en fait?
Ouais, c'est une grosse question. Je pense que... Ben, je pense qu'il faut juste faut avoir ses antennes bien ouvertes. Et puis, c'est vrai que parfois, j'entre dans le studio et je ne sais pas ce que je vais faire. Puis, il faut juste que je me fasse confiance, que je me rappelle c'était quoi le désir premier. Et puis là, il y a des mots qui vont surgir, il y a des idées, des images. Et puis, il faut se connecter à ça. Parfois, c'est très mince. Mais il faut juste faire confiance. Parfois, même, je dis à mes danseurs, « Oh, aujourd'hui, je suis pas sûre, je sais pas, ou on va discuter, puis c'est quelqu'un d'autre qui va dire, bah, peut-être qu'on pourrait essayer ça. » Mais, ouais, je pense qu'il faut juste... faut pas se pousser à créer. Je pense que la création est là. Puis il faut juste savoir écouter ça.
Vous avez parlé de Cunningham tantôt, puis lui, justement, il avait tendance à séparer comme la musique puis la danse, mais est-ce que pour vous, est-ce que c'est comme intimement lié ou vous aussi, vous avez tendance à séparer la danse puis la musique parce que c'est pas nécessairement complémentaire?
Je sais pas trop ce que tu veux dire par séparer.
Ben, en fait, c'est comme lui, il faisait, mettons, une chorégraphie, puis le soir du spectacle, il arrivait, puis il mettait une musique.
Oui.
Puis... Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que pour vous, c'est vraiment... pas la musique, pas c'est la base, mais vous
Non, c'est pas la base.
Non, mais pas la base, mais est-ce que vous fiez un peu sur la musique ou est-ce que... Parce que, je veux dire, Cunningham, au pire, il aurait pu pas avoir de musique mm-hmm. du tout. Puis, mm-hmm. Mais c'est ça. Mais est-ce que ça a une certaine importance dans votre processus?
C'est sûr que la musique est importante. Comme quand on met une musique sur un film, ça va aider beaucoup à créer l'atmosphère. Fait que, souvent, je crée la chorégraphie. Et la musique va s'ajouter après. Comme il y a une trame visuelle puis une trame sonore. Mais... Et puis là, peut-être que les danseurs vont trouver des repères parfois sur la musique. Mais on n'a jamais, on n'est jamais, on ne s'organise pas autour de la musique. Par exemple, il y a une section dans Onde de choc où les danseurs bougent vraiment sur la pulsation. Ça dure très peu de temps. C'est nous qui avons proposé la pulsation et le compositeur a créé la musique après. Pour moi, c'est important que le danseur ait sa musique en lui. Son rythme. On parle souvent de ça. Tu sais, je lui dis, cherche ta musique. Parfois, on crée une section qui va durer 3 minutes, et puis ça semble plus ou moins cohérent. Et je pense que c'est parce que, justement, le danseur n'a pas encore trouvé sa fluidité à travers sa musique intérieure.
Je me souviens d'un laboratoire que tu avais fait justement avec l'image, puis à un moment donné, tu avais fait danser les danseurs sur une musique qui était vraiment très colorée, puis tu avais dit, oh, mais j'utiliserai jamais une musique colorée comme ça dans un spectacle parce que ça induit trop clairement une émotion. Donc, la musique est quand même un peu neutre pour laisser vivre la danse.
C'est ça, exactement. Oui.
Bonjour. Il y a quelques années, j'avais vu Destroy de La 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 Human Steps. Puis il y a une phrase qui m'est restée. Puis il y avait le micro avec le cœur. Puis on disait à un moment donné, ben on expliquait au spectateur, ben plus la danseuse danse vite, ben plus son cœur est rapide. Puis plus le cœur est rapide, plus la danseuse va danser rapidement. Puis je me demandais si vous étiez parti de ça ou pousser ça ailleurs ou vous êtes parti dans cette direction là.
Ben c'est sûr, c'est évident que en fait, oui, on voulait chercher, peut-être explorer un peu la limite, le dépassement physique, puis faire entendre le cœur, mais non, je ne suis pas vraiment partie de l'idée de... En fait, je ne suis pas sûre de ta question.
Dans le fond, moi, j'ai un peu l'image de la crise cardiaque, là. Ouais. On pousse ça à la limite, puis je me demandais, est-ce que l'utilisation du rythme du cœur, est-ce que ça va aller en fonction de... Bon, plus que la danse va être rapide, plus le cœur va battre, donc là, ça va dicter le rythme de la danse.
Ben, il y a une partie où, je sais pas si vous avez vu le spectacle, il y a une partie où il y a une danseuse qui danse vraiment sur le rythme du battement cardiaque d'un danseur, elle est branchée à lui. Puis, elle a une chorégraphie, mais elle doit l'exécuter sur chaque battement cardiaque de l'autre. Et naturellement, comme c'est assez long, le cœur ralentit parce que ça vient d'une... Juste avant, il y a eu une séquence assez épuisante, donc il bat fort au début et tranquillement, ça ralentit. Donc, c'est une façon d'explorer ça un petit peu. C'est sûr que... Pour moi, c'était intéressant de faire écouter le cœur, mais il fallait que ça se développe vers autre chose, parce que, bon, c'est quelque chose, effectivement, qu'on a vu, qu'on a entendu dans d'autres spectacles. Et tout l'aspect évocateur est important à explorer, je dirais, dans le spectacle. Mais l'idée de la pulsation, la vie, le cœur qui pompe est présent du début à la fin, oui.
Mais c'était beaucoup, si j'ai bien compris, en tout cas, c'était la pulsation du cœur lui-même, c'était un peu le point de départ, mais on sent dans le spectacle que ça déborde beaucoup de ça, dans le sens où il y a quelques occasions où les danseurs sont vraiment branchés sur le stéthoscope, puis c'est des petits moments, bref, alors... C'est une portion.
Oui, c'est une portion du spectacle, c'est vrai. C'est vrai. Oui.
D'autres questions?
Oui, c'est ça. Vous parlez beaucoup de vos danseurs. Vous avez l'air très proche. Puis je me demandais, le processus de sélection, est-ce que ça marche par audition? Puis aussi, je veux savoir, est-ce que vous, vous acceptez des gens dans votre compagnie seulement sur leur capacité physique puis la façon qu'ils dansent ou aussi sur leur personnalité puis leurs opinions?
Oui. Bien, tout ça, c'est important, je pense. On fait parfois des auditions. Pour moi, l'équilibre entre les interprètes, c'est important. Je travaille avec des gens qui sont tous assez différents. Pour moi, ils peuvent tous être solistes, mais je les utilise en groupe. La chimie du groupe, c'est très important. Ses capacités physiques aussi, bien sûr, mais c'est son talent d'interprète et sa façon de se mêler au groupe, sa façon de s'engager aussi dans le groupe, sa créativité, tout ça, c'est important.
Ben, vous avez dit qu'à un moment dans le spectacle, il y avait une danseuse qui dansait sur le rythme cardiaque d'un autre danseur. Mais ça peut... Il me semble que le rythme cardiaque peut changer d'une représentation à l'autre.
Oui.
Donc, ça, le spectacle va changer.
Oui.
Oui.
La longueur de cette section-là va changer à chaque fois. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments comme ça hein, dans le spectacle. Il y a beaucoup, il y a quelques éléments un peu improvisés dans un cadre très précis. Il y a des impulsions qui sont données par la lumière. Alors, tant que la lumière n'est pas démarrée, on n'y va pas. Il y a d'autres impulsions qui sont données par un danseur en particulier. Donc, cette section-là va démarrer juste quand le danseur va y aller. La dimension du plateau va changer aussi la durée du spectacle. Parce que si c'est plus petit, ben les entrées, les sorties, ça prend moins de temps. Si c'est plus grand, tout ça. Alors, il y a une adaptation à chaque salle. Il y a une partie aléatoire. Moi, j'aime bien. Quand le danseur a le trac, c'est vrai que ça bat plus vite. Hier, ça battait vite. C'est vrai que des fois, on fait juste une générale technique. Donc, ils se mettent le stéthoscope, mais ils ont marqué la séquence avant. Donc, ça bat très lentement. Puis c'est des athlètes, donc le cœur, généralement, quand ils sont au repos, il bat très lentement parce qu'il est habitué de pomper. Et puis, c'est vrai qu'il y a des grandes variations parfois dans ce duo-là. Ça commence, ça pompe, mais très vite, ça revient là. Donc, il y a une grande différence entre le début et la fin dans le rythme.
D'où vous est venue l'idée de mettre un stéthoscope sur le cœur des... Genre, d'où ça vous est venu? D'où est-ce que ça vous est venu? Est-ce que vous êtes réveillé un matin et dit « Ah, oh, moi, je vais enregistrer leur battement de cœur » ou c'est quoi?
Bien, c'est l'idée de... Dans la... L'idée d'exploration, de me rapprocher du corps, d'ausculter le corps, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup depuis quelques années. Et là, j'ai décidé de le faire par le son. Donc, pour moi, c'est important de faire entendre les sons intérieurs du corps, autant que ceux qui peuvent être générés par les pas des danseurs, mais aussi ceux de l'intérieur. Donc, le plus simple, c'était d'y aller avec le stéthoscope, mais c'est vrai qu'on a dû faire une petite recherche là pour voir comment insérer le micro là-dedans, puis que ça fonctionne. Mais c'est juste ça, tout simplement.
On va prendre une dernière question.
Okay. Moi, je voudrais juste savoir, par le passé, est-ce que vous avez déjà créé des pièces qui étaient basées sur un organe particulier du corps humain ou le cœur dans Onde de choc? C'est une première pour vous.
Ouais, c'est une question précise, ça. Je pense que c'est la première fois, effectivement. Je pense que je ne serais pas attirée de faire une pièce sur le foie ou sur l'estomac. Je pense que le cœur, ça va sûrement être le seul organe que j'aurais exploré.
Merci beaucoup à tout le monde.
Merci. Bonne après-midi.